Le journal Sébastien Legénie. Bonjour Sébastien.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, les Français vont-ils devoir travailler plus pour financer la dépendance des personnes âgées? C'est l'une des questions explorées par l'Élysée. Emmanuel Macron prendra la parole cette semaine. Parmi les pistes envisagées, la suppression d'un jour férié, ce qui divise déjà les familles. Reportage à suivre. Le Sri Lanka qui compte ses morts. Bilan encore en hausse ce matin avec près de 300 tués, des attentats toujours pas revendiqués. Explication d'un chercheur sri-lankais dans ce journal. Dans l'actualité également, l'élection d'un comédien à la tête de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky l'emporte avec près des trois quarts des suffrages. La victoire sur le fil des Françaises en demi-finale de la Fed Cup, c'est du tennis. Et le PSG, enfin champion de France et qui renoue avec la victoire face à Monaco. On parlera aussi des inondations en Iran. Pas question pour Washington de venir en aide à Téhéran. Géopolitique oblige. Et d'une exposition inédite entre peintres impressionnistes et peintres contemporains.
Monseigneur Bruno Valentin, évêque auxiliaire de Versailles, sera l'invité d'Alexandra Ben Saïd à 7h50.
France Inter.
Nicolas Sarkozy avait inventé le travailler plus pour gagner plus. Emmanuel Macron est à la recherche d'une nouvelle formule.
Une nouvelle formule pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État et notamment pour financer les coûts liés au vieillissement de la population. 9 milliards d'euros de plus par an à partir de 2030. Alors parmi les pistes envisagées, la suppression d'un deuxième jour férié. Il y avait déjà la journée de solidarité créée en 2004 par Jean-Pierre Raffarin. Là, l'exécutif réfléchit à un dispositif similaire, un jour férié de moins dans l'année, en solidarité avec nos aînés. Qu'en pensent les Français? Une partie de la réponse avec ce reportage. À La Courneuve, Sarah Tucherer a rencontré une famille très partagée.
Dans la famille, il y a Mathis, 8 ans, la mère, Anne, qui travaille dans le social, et le père, Nicolas, intermittent du spectacle. Habitué des horaires décalés, il n'a rien contre la suppression d'un jour férié.
Travailler un jour de plus, ça ne me gêne pas du tout. De par mon métier, je travaille les nuits, les week-ends, les jours fériés, les 1er mai, les 14 juillet. Ça ne va pas changer mon quotidien. Où on a déjà beaucoup de vacances, en tout cas en France, on a énormément de jours fériés. Après, je comprends une majorité des Français qui peuvent être choqués par cette mesure. Ça, je le comprends tout à fait.
Nicolas reconnaît que financièrement, le couple n'est pas à deux jours de salaire près. Mais pour Anne, le débat va au-delà. Elle considère les jours fériés comme des acquis sociaux.
La question du repos et à quel point c'est dans notre inconscient collectif, c'est quand même pas rien de toucher à ça. Ça nécessite une réflexion et peut-être même un accompagnement. Et surtout que ce soit... Effectivement, la véritable réponse, et ça j'en suis pas totalement certaine. En tout cas, pour faire remonter l'économie française, je suis pas sûre que ce soit en retirant un jour férié en tout cas.
L'an passé, la journée de solidarité a rapporté 2,5 milliards d'euros, très loin du coût total de la dépendance en France, estimé à plus de 30 milliards d'euros.
Sarah Tucherer. Emmanuel Macron se prépare cette semaine donc à détailler ses mesures post-grand débat. Le chef de l'État prendra la parole jeudi face aux journalistes. Première conférence de presse du genre depuis son arrivée à l'Élysée. Ce sera à 18h. Autre sujet de préoccupation économique pour le gouvernement, ces dizaines de milliers d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneurs en France, notamment par manque de formation. Exemple ce week-end, dans la restauration avec des terrasses pleine à craquer grâce à un temps estival, un peu trop pleine même. Certains restaurateurs ont été pris de court. Reportage à Saint-Valery-en-Caux dans la baie de Somme, baignée de soleil. Noémie Philippot de France Bleu Picardie.
Sur la porte du restaurant Le Mathurin, l'affichette est là toute l'année. Recrute un cuisinier et un serveur. Pierre-Alain Delabie, le gérant, cherche du personnel qualifié, difficile.
Aujourd'hui, il ne faut pas se le cacher, c'est un métier très difficile. Beaucoup d'heures, beaucoup de pression, beaucoup de stress. Et voilà, les restaurateurs n'ont pas joué le jeu et ils ont payé pendant longtemps les salariés à coups de pierre. Et là, on en paye le prix.
Sur les vitres du Nichols, même annonce, le restaurant existe depuis une dizaine d'années. Une force pour recruter, Sébastien Cancel y travaille comme serveur.
On arrive toujours à trouver. Moi, ça fait depuis 2009 que je suis ici. Toutes les saisons, on a toujours réussi à trouver du personnel. Après, il y a quelques courageux, on va dire.
S'ils n'embauchent pas, certains restaurateurs doivent réduire le nombre de couverts, perte énorme. Pour ne pas en arriver là, Loïc Loust, le gérant du restaurant Le Jardin, multiplie les annonces.
Facebook, Le Bon Coin nous aide beaucoup, Pôle emploi, on a des bons rapports avec eux. Nous, la problématique qu'on peut rencontrer, c'est qu'on est nouveau sur Saint-Valery, on n'a qu'un an et demi d'existence, donc on n'a pas un fichier de staff important. Donc on fait au petit bonheur la chance.
Il a bataillé pour trouver 4 extras. Face au manque de main-d'œuvre, il a même embauché sa famille au restaurant.
On a mis Philippot de France Bleu Picardie. Retour maintenant sur les manifestations des Gilets jaunes du week-end avec des slogans qui sèment le trouble. Ils étaient près de 28 000 samedi, dont 9 000 à Paris, des chiffres qu'ils contestent. Des rassemblements moins violents que ceux que craignaient les pouvoirs publics, mais c'est la violence verbale qui a beaucoup choqué la classe politique ce week-end, notamment avec ces slogans entendus samedi, place de la République à Paris. Suicidez-vous, a-t-on pu entendre dans les rangs des Gilets jaunes face à des policiers touchés ces dernières semaines par une vague inédite de 28 suicides. Le parquet de Paris a donc décidé d'ouvrir une enquête préliminaire pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Une enquête nécessaire, selon Christophe Rouget. Il est secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure.
Nous réclamions cette enquête. Elle est nécessaire. Nous sommes dans un contexte de fatigue physique très lourd, lié à 23 semaines de conflit social. Nous sommes dans un contexte de fatigue morale, parce que nous faisons l'objet en permanence de critiques au quotidien. Notre travail est remis en cause sur la gestion du maintien de l'ordre. Et je crois que cette enquête, elle devra permettre d'identifier ces individus qui étaient en réunion, ce qui est d'autant plus grave, de les sanctionner. Mais qu'au-delà de cette sanction pénale, qui devra être forte, le plus important est de mettre nom sur des visages, sur l'abject, sur l'ignominie.
Christophe Rouge, interrogé par Sophie Parmentier en face. Deux figures médiatiques ont dénoncé ces propos anti-policiers tenus pendant les manifestations. Priscilla Ludowski et Jérôme Rodriguez apportent leur soutien, disent-ils, aux familles des forces de l'ordre endeuillées par les récents suicides. Jérôme Rodriguez qui toutefois affirme aussi comprendre l'énervement de certains gilets jaunes.
Je dénonce, comme je le fais depuis le début du mouvement, toute forme de violence, qu'elle soit physique ou verbale, surtout vis-à-vis des policiers. Moi-même, suite à l'attaque que j'ai subie, j'ai toujours appelé à ne avoir ni haine ni violence vis-à-vis de la police. Ce sont très peu de personnes qui s'amusent à dire ce genre de conneries. On comporte le discrédit sur l'ensemble du mouvement. On ne peut pas cautionner ce genre de propos, mais on peut essayer quand même de le comprendre, que face à la répression, pourquoi certaines personnes en arrivent à avoir des propos aussi radicaux que ceux qui ont été entendus pendant la manifestation.
France Inter, 7h38, 24 heures après les attentats au Sri Lanka, le bilan s'est encore alourdi.
Autour de 290 morts et au moins 500 blessés, dernier chiffre annoncé cette nuit par la police sri lankaise, qui a par ailleurs désamorcé ce matin une bombe artisanale à l'aéroport de Colombo. Au total, 8 explosions dans 3 églises catholiques et 4 hôtels organisés quasiment au même moment, au moins par 2 kamikazes, le tout en pleine messe de Pâques. À ce jour, il n'y a encore aucune revendication, 13 personnes ont été arrêtées. Quelles que soient les origines, l'origine de ces violences, ces attentats réveillent en tout cas de terribles souvenirs. Au Sri Lanka, 10 ans après la fin de la guerre civile qui a ravagé le pays entre 83 et 2009. Écoutez les explications de ce professeur d'université Sri Lanka à Colombo, Raoula Atala, joint par Yann Gallic.
Le gouvernement a immédiatement déclaré l'état d'urgence et instauré un couvre-feu. Les leaders religieux de toutes les confessions, le président et le premier ministre, ont demandé à la population de rester calme et unie pour essayer de trouver les responsables de ces attentats qui veulent déstabiliser le pays. Même pendant les 3 décennies de guerre civile, le Sri Lanka n'avait jamais connu de telles attaques simultanées en si peu de temps. Les gens pensaient que les choses avaient changé depuis la fin du conflit il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, on se retrouve à nouveau plongé dans la même situation que pendant la guerre, quand il fallait être vigilant et faire toujours attention à ce qui se passait autour de nous. C'est très difficile à gérer.
Raoula Atala, professeur d'université à Colombo, au Sri Lanka. Je précise que ce n'est pas 13 personnes, mais 24 personnes qui ont été arrêtées. À lire ce dossier sur franceinter.fr. Quand la géopolitique entrave l'aide humanitaire, ça se passe là en Iran. L'Iran, frappé depuis des semaines par des inondations dévastatrices. Dans ces conditions, Téhéran espérait que Washington allait mettre la politique de côté et envoyer de l'aide humanitaire, comme l'avaient fait les États-Unis en 2003 lors du tremblement de terre de BAM, mais il n'a pas question de faire un geste. L'affrontement entre Américains et Iraniens ne faiblit pas, même en cas de catastrophe naturelle. Christian Chenot.
Même dans le domaine de l'humanitaire, États-Unis et Iran sont à couteau tiré. Pour le président Hassan Rouhani, les inondations qui frappent le pays depuis la mi-mars sont une nouvelle preuve de la méchanceté et de la vraie nature du régime américain. Car non seulement les États-Unis n'ont pas envoyé d'aide d'urgence aux populations sinistrées, mais ont même bloqué l'envoi d'argent par la diaspora iranienne vivant en Amérique. Une application extrêmement extrêmement rigoureuse de l'embargo américain frappant la République islamique, reconnaît François Nicolau, ancien ambassadeur de France à Téhéran.
Même si aux États-Unis, il y a des gens qui disent « je voudrais envoyer de l'argent, je voudrais envoyer de l'aide, etc. », cette aide n'arrivera jamais parce qu'elle n'arrivera jamais à cause des sanctions américaines. Donc c'est vrai que les Iraniens le ressentent très très mal. En d'autres circonstances, les Américains étaient intervenus, par exemple du temps du tremblement de terre de BAM en 2003. Eh bien, les Américains avaient envoyé une aide importante à l'époque que les Iraniens avaient acceptée avec reconnaissance. Donc on n'est plus du tout dans cette configuration, en effet.
Le Croissant Rouge iranien s'est plaint de ne pouvoir recevoir aucune aide en provenance de l'Organisation internationale de la Croix-Rouge à cause des sanctions américaines. À défaut d'aide financière, l'Iran a reçu néanmoins un soutien en nature de la France, de l'Allemagne, de l'Italie ou encore du Japon. Mais entre Téhéran et Washington, tous les coups sont permis, y compris dans l'humanitaire.
Christian Chesneau, c'était attendu. Carlos Ghosn, de nouveau inculpé au Japon pour abus de confiance aggravé. Sa garde à vue arrivait à terme aujourd'hui. Il s'agit de la quatrième mise en examen pour l'ancien PDG de l'Alliance Renault-Nissan. Ses avocats ont prévenu qu'il déposerait aussitôt une demande de remise en liberté sous caution.
Et pour finir, Sébastien, un dialogue inédit entre peintres impressionnistes et peintres contemporains.
Ouais, de l'art contemporain à côté des toiles de Monet. C'est le pari audacieux du musée Marmottan Monet qui va inviter plusieurs artistes contemporains à créer un échange avec les œuvres impressionnistes de sa collection. Le premier artiste invité, c'est Gérard Fromanger, qui a créé des œuvres pour un dialogue très inattendu avec Monet, mais aussi avec Caillebotte et Pissarro. Isabelle Pasquier.
Comment représenter un soleil levant en 2019, 150 ans après les impressions de Monet au Havre? C'est la question que s'est posée Gérard Fromanger, lui le peintre subversif de mai 68, qui puise son énergie dans la rue et ses révoltes. Résultat, face à Monet, une toile cosmique avec une foule en mouvement, plongée dans l'espace, une foule multicolore, faite de la même énergie que celle des orbites et des planètes. Gérard Fromanger et ses visions.
Depuis Gagarine jusqu'à je vois autrement le lever du soleil, avec toutes ces images de satellites qui nous montrent à quel point nous sommes dans l'espace. Nous voyageons sur notre station spatiale Terre, autour du soleil, à environ 30 km seconde. C'est la folie. Donc, dans cette vision d'aujourd'hui, il faut que je fasse une peinture avec des gestes neufs par rapport à ceux de Monet, et j'ai essayé de traduire par mon geste de peintre toutes ces notions complexes, et la peinture va donner quelque chose que ne peuvent pas donner les autres arts ou les autres disciplines. Faire comprendre que tout ça est un ensemble extraordinaire. Je vais parler avec mon geste de peintre de l'énergie du monde.
Gérard Fromanger qui expose aussi un soleil qui fond comme ses coulures du rouge de son drapeau tricolore, filmé avec Godard en 68. Gérard Fromanger, quand l'art nous donne des vertiges politiques et métaphysiques.
Isabelle Pasquier, pour terminer, un dernier appel. Attention à la pollution aux particules fines en Bretagne et en Normandie. Les préfectures demandent aux automobilistes de réduire leur vitesse de 20 km/h, une alerte valable jusqu'à ce soir minuit.
Merci Sébastien, à suivre sur Inter, l'édito politique, mais d'abord la route.